Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi, RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ensemble jusqu'à 15h avec Thibaut Texer, Thierry Moreau, avec Pierre Rondeau, avec Fred Hermel, avec vous au 32-16 pour répondre tiens, à notre dernière question. Faut-il supprimer la trêve hivernale qui protège les squatteurs tout l'hiver? 14h30, ce sera RMC s'engage pour vous. Élise Dangean qui va tenter d'aider des parents d'élèves dont les enfants n'ont plus de moyens de transport pour aller au collège. Évidemment, c'est embêtant hein, pour aller à l'école. Il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et tiens, on connaît déjà l'affiche de la finale de la Coupe du Monde de foot. On vous la donnera tout à l'heure avec Thibaut Texer aux alentours de 14h35. Non, c'est bien, vous connaissez déjà les finalistes deux mois avant la Coupe du Monde. Moi, je trouve ça assez classe, Thibaut. Et puis, on terminera justement avec un cadeau à gagner qui concerne la Coupe du Monde.
Eh oui. France-Tunisie, ce sera le 30 novembre prochain au Qatar. Vous pouvez partir au Qatar pour assister à ce match. Transport, hébergement et vos places pour le match, tout est à nos frais. Vous pouvez vous inscrire en envoyant RMC au 7-32-16. Le gagnant sera connu vendredi.
RMC Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite à l'histoire du jour. C'est celle d'un couple de retraités obligé de vivre dans un camping-car depuis 2 ans car sa maison est squattée. Ça paraît invraisemblable, d'autant qu'un juge a ordonné l'expulsion des squatteurs. On écoute tout de suite le retraité Pierre Garcia.
Cette dame est expulsable depuis le 14 septembre et la préfecture nous dit qu'elle a eu le dossier il y a très peu de temps. Donc, bon, pourquoi pas. Mais il manque dans ce dossier, si vous voulez, la signature et le tampon du préfet de région de façon à ce que cette dame soit expulsée avant la fin octobre et que nous puissions intégrer notre appartement et ne pas passer encore une fois l'hiver dans le camping-car. Parce que, vous savez, rester 2 ans et demi dans un camping-car, avoir fait deux confinements là, croyez-moi, c'est pas rigolo du tout.
Et Thibaut Texer, on parle de trêve hivernale. La trêve hivernale, elle démarre le 31 octobre.
Et oui, elle a été instaurée en 1998. Elle vise à protéger les familles en difficulté financière qui ne peuvent payer leur loyer et donc se retrouver à la rue en plein hiver. Une trêve de 6 mois qui s'applique donc entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année, durant laquelle un propriétaire ne peut pas expulser son locataire. Durant cette période, le propriétaire a tout de même la possibilité d'engager une procédure d'expulsion via la justice. Si le juge ordonne l'expulsion, elle sera effective à la fin de la trêve hivernale, soit à partir du 1er avril. En cas de non-respect de la trêve, un propriétaire s'expose à une peine de 3 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Durant cette période, le locataire est également protégé contre les coupures d'énergie en cas de facture impayée. Pour en revenir justement à notre couple de retraités marseillais, leur dossier sera examiné dans les meilleurs délais et avec la plus grande attention, précise de son côté la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Enfin, ça fait déjà quand même 5 mois qu'ils attendent là.
Ça fait un petit moment depuis le mois d'avril.
Oui, ça fait longtemps pour étudier un dossier.
Oui.
Tout de même. Bon. Thierry Moreau, est-ce qu'il faut supprimer la trêve hivernale pour les squatteurs?
Alors non, parce qu'elle a quand même plus d'avantages que d'inconvénients. On va pas mettre des familles à la rue en plein hiver. Ça, c'est le premier point. En revanche, il faut qu'il y ait des exceptions. Par exemple, il pourrait très bien y avoir une exception quand, dans le cas qu'on a écouté tout à l'heure, c'est le logement principal des gens. C'est-à-dire qu'eux sont obligés d'être dans la précarité, c'est-à-dire dans un camping-car, alors que leur logement principal est occupé par des squatteurs.
Ou ça paraît aberrant quand même.
Et il faudrait qu'il y ait, évidemment, c'est pas pour mettre la personne à la rue, il faut qu'il y ait un relogement derrière. Il faut que la personne puisse être relogée par sa famille, par quelqu'un. En tout cas, il faudrait que cette loi sacrée un peu intangible de la trêve hivernale puisse avoir des exceptions dans des cas précis et très encadrés. Moi, en fait, il faut une évolution de notre philosophie du droit. Il faut passer d'une protection absolue du locataire, ce qui est le cas actuellement, à une préservation des droits du propriétaire, notamment quand c'est son logement principal, comme le cas d'espèce. La semaine dernière, il y a une condamnation qui est intervenue de la Cour de cassation où un propriétaire a été condamné à ne pas avoir fait, parce qu'il n'avait pas fait les travaux de réfection dans un appartement alors qu'il était squatté. sauf qu'il n'avait pas accès à l'appartement parce qu'il était squatté, donc il pouvait pas faire. Mais le squatteur a porté plainte en disant qu'il avait eu un accident parce que le bien n'était pas entretenu. Ça, et la Cour de cassation dit, eh bien, le propriétaire jugé responsable, même s'il s'est occupé illégalement, il est tenu pour responsable de tout ce qui se passe dans son logement. Donc on marche un peu sur la tête. Il faut absolument des exceptions à cette trêve hivernale, mais dans l'ensemble, ça protège plus de gens que ça en met à la rue.
Pierre Rondeau, est-ce que c'est à l'État de trouver les solutions de logement et non pas aux particuliers? Parce que là, on voit pour ce coup, c'est hallucinant comme ça. Ça fait 2 ans qu'il est dans une caravane. Alors que déjà, il y a des gens qui sont dans leur maison principale et qui ne payent pas. Est-ce qu'à un moment, l'État expulse, mais l'État retrouve des logements?
Là-dessus, on est entièrement d'accord et je souscris totalement à ce qu'a dit Thierry. Bien évidemment que la trêve hivernale, il faut la protéger. Et c'est pas la faute de l'existence ou de la présence de la trêve que ces gens-là ne peuvent pas récupérer leur logement depuis 2 ans. La trêve, c'est 6 mois dans l'année. Oui. Mais ça fait 2 ans, ça va au-delà de cette question de la trêve.
Bah disons que là, c'est même s'il y a une décision de 1er novembre, ils ne pourront pas récupérer leur logement encore pendant 6 mois.
C'est pour ça que je souscris à ce que disait Thierry sur des exceptions et de pouvoir finalement éviter de maintenir la trêve indue lorsque effectivement ils veulent récupérer leur logement principal. Maintenant, à la question du relogement, en tout cas de la lutte contre cette précarité immobilière et ce droit au logement qui pour moi est un droit essentiel pour toutes et tous. Hein, et il ne faudra pas prendre le risque en supprimant la trêve hivernale de mettre des familles à la rue et des enfants à la rue pendant l'hiver.
Les retraités dont on parle, ils sont quasiment à la rue.
Nous sommes d'accord et c'est pour ça que je ne veux pas généraliser.
Alors qu'ils ont un logement. Précis,
la trêve hivernale sert aussi à protéger des familles qui vivent dans une grande précarité et qui ont ce droit au logement qui pour moi est essentiel. Tout le monde devrait pouvoir vivre sous un toit en France. Les personnes sans abri, pour moi c'est gravissime d'accepter ou de continuer à fermer les yeux sur ce phénomène.
C'est pas aux propriétaires de régler ce problème.
Nous sommes entièrement d'accord. Maintenant, si on veut trouver des solutions pour régler le problème, l'État ne doit pas tout. Là-dessus je vous rejoins, l'État ne doit pas tout. Rappelons par exemple chiffre INSEE.
Je pense que c'est plus à l'État qu'aux particuliers de régler ça.
Sur des cas particuliers, chiffre INSEE, aujourd'hui en Île-de-France, donc c'est bien plus pour la France entière, mais j'ai les chiffres pour l'Île-de-France, il y a 400 000 logements vacants. Il y a 400 000 logements vacants. Aujourd'hui, dans Paris, il y a 100 000 logements vacants. Vous allez dans Paris à 18h, 19h dans les immeubles, des immeubles éteints. Personne n'y vit. Alors oui, vous me direz, est-ce que ça va justifier le squat? Non, mais l'État pourrait, s'il doit trouver des solutions pour lutter contre le mal-logement et les personnes sans-abri, justement faire en sorte de lutter contre cette spéculation immobilière.
Est-ce que vous voulez réquisitionner, par exemple?
Mais des logements qui restent vides pour des questions de spéculation immobilière.
Est-ce que tu réquisitionnerais?
Bien évidemment.
Mais tu peux acheter un logement en te disant, tiens, mes enfants sont étudiants et dans un an, ils vont vivre dedans.
Estelle, jamais je ne généralise. Jamais je fais du cas par cas et je rejoins Thierry sur l'action de la justice. Donnons plus de moyens à la justice.
Mais tous ces logements vides, ils ne le sont pas pour la même raison.
Bien évidemment. C'est pour ça que la justice, d'avoir les moyens de ses ambitions et faire du cas par cas et de justement prendre les bonnes décisions pour les bonnes personnes. Bien évidemment que si vous achetez un appartement pour le mettre en travaux, pour le rénover, pour votre fille ou votre fils, lorsqu'ils sont étudiants, bien évidemment. Maintenant, quand je vous parle et j'en connais des logements, exemple, je vais faire comme Fred.
Prenons des bureaux vacants dans ce cas-là, c'est déjà.
Non, mais je vais faire comme Fred et je donne un témoignage particulier. Je connaissais quelqu'un, ça va loin. C'était un proche de ma mère qui fréquentait la communauté iranienne et il y avait des gens en Iran qui avaient acheté un appartement dans Paris pour les études de leur fille à Paris. Oui. Leur fille avait 5 ans.
Oui.
C'était en prévision de ses études parisiennes à sa majorité.
Donc tu leur squattes leur appart?
Non mais... Attendez, est-ce que vous cautionnez quelqu'un qui va acheter un appartement pour sa fille de 5 ans pour qu'elle l'occupe à 18 ans? Et entre 5 ans et 18 ans, il reste vide.
Mais il a payé cet appart.
Et donc vous le cautionnez?
Mais je le cautionne pas.
Vous cautionnez que des appartements restent vides par pure spéculation?
Mais il a payé cet appart.
Mais ce que je vous dis, c'est que je vous donne et je vous laisse le droit de pouvoir en faire ce que vous voulez. Mais de 5 ans à 18 ans, il y a de la marge.
Ok, alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton appart.
Mais
si cette personne, on en est là.
Mais si cette personne, attendez, mais là on marche sur la tête. Il y a des gens qui vivent dehors. Il y a des gens qui sont victimes de squatteurs. Il y a des gens qui éprouvent les plus grandes difficultés du monde à vivre dans Paris et en France. Et vous dites. Ils font ce qu'ils veulent.
Non, et je dis l'État.
Ils ont acheté un appartement de 5 ans à 18 ans. Il restera vide, mais il fait ce qu'il veut. Non, mais on marche sur la tête. Il y a des enfants qui dorment dehors. Il y a des gens qui dorment dehors.
Et c'est de la faute de cette famille iranienne?
En partie. 400 000 emplois vacants en France. Il y a dans ces emplois vacants des gens qui, par pure spéculation, vont laisser abandonner pendant 10 ans, 15 ans, pour ensuite le récupérer à la majorité de leurs
filles. C'est à l'État de trouver les solutions d'hébergement plus pérennes que ce qu'il fait.
À réquisitionner des logements vacants pour les mettre en location au prix de marché pour des gens qui vivent dans une grande précarité immobilière.
Comme disait ma pauvre grand-mère, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd.
C'est hallucinant. C'est-à-dire que toi, tu achètes un appartement, légalement, tu ne le voles pas, tu payes. Voilà, tu payes et on va te le réquisitionner.
Tu payes des taxes, hein, des impôts chaque année.
Oui, c'est je suis choqué que personne ne soit choqué de laisser 10 ans l'appartement
parle,
vide.
Pierre, je parle. Mais... Ne me squatte pas la parole, s'il te plaît. Je vois que c'est ton habitude.
Il n'y a pas de loi pour ça.
Vous savez quel est le problème qu'on a en France ? C'est que le propriétaire, c'est un méchant. Le propriétaire, c'est un riche. On voit Monsieur Garcia, là, Monsieur Pierre Garcia. Il n'a pas l'air d'être un riche. Hein. Et la plupart des propriétaires en France, ce sont
La majorité sont multipropriétaires.
Je me suis tué.
La priorité sont multipropriétaires.
Mais je me suis tué. Je peux terminer ma phrase.
Quand tu dis un truc faux.
Taisez-vous. Laissez faire.
Un truc faux. Je vois simplement ce monsieur. Il a une maison, on lui squatte. Et le mec, il est dehors, il vit dans une caravane. Et ça, c'est tout simplement insupportable. Et ça vient d'où ? Je répète ce que je dis en essayant d'aller jusqu'au bout de ma phrase, qu'on a une image totalement déformée de qui sont les propriétaires. Et même s'ils sont multipropriétaires, on a le droit d'être multipropriétaire. On a le droit d'acheter ce qu'on veut. On a le droit de travailler, de mettre de côté et d'acheter des appartements à ses enfants. Et on n'est pas un sale riche pour autant. C'est ça, c'est de la haine. Tout ça, ça vient de la haine des gens qui possèdent quelque chose. Les gens qui possèdent des choses travaillent, payent des impôts. Là, payent des taxes.
Les Iraniens.
Mais si, paye la taxe foncière, excuse-moi.
Il passe la taxe foncière et la taxe d'habitation, si c'est une résidence secondaire, Pierre.
Et voilà. Donc, tout est organisé, justement, pour que le fait d'avoir simplement un logement, tu payes pour cela. Et on veut réquisitionner ça. Tu sais ce qu'on appelle ça? On appelle ça la fin de la démocratie. Voilà. C'est quand on réquisitionne des choses.
Mais
je pense que Pierre changera d'avis le jour où il se fera squatter son appart. Je pense qu'il n'aura plus du tout le même discours.
Il n'est pas propriétaire.
Voilà. Donc, déjà, ça n'arrivera pas.
Mais si tu l'as, peut-être qu'un jour tu seras.
Complètement.
Ou peut-être qu'un jour tu hériteras.
Là, c'est un autre débat.
C'est toujours facile. Quand ça ne se concerne pas directement.
D'accord.
Vous avez que ça. Vous savez, votre caricature, c'est de dire que je suis une caricature. C'est simplement du bon sens.
Excusez-moi, est-ce qu'on peut prendre Olivier, qui nous a gentiment appelé au
3216
et qui patiente depuis Nice et qui est agent commercial. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Bonjour
Estelle, bonjour tout le monde.
Eh ben merci d'être avec nous.
J'ai quand même beaucoup moins attendu que ce que j'attends que ma locataire s'en aille suite à son expulsion, hein, ça je tenais à le préciser.
Ah oui, mais c'est oui. Ah ouais, vous êtes dans le même problème que notre couple de retraités alors.
Je suis pas dans une caravane, mais oui, je suis dans le même cas de figure. Déjà, je voulais dire qu'il y en a marre d'entendre dire que le propriétaire est méchant, qu'il a pas le droit d'acheter un appartement et de le laisser vide pendant 10 ans. Il fait ce qu'il veut. Je veux dire, une fois de plus,
il y a un petit problème moral, c'est ça que dit Pierre Rondeau, en fait.
Le problème moral. C'est des appartements, il y en a, moi je vois, donc la locataire qui doit partir, qui a une décision de justice qui est expulsée et qui doit partir, donc ça fait 2 ans qu'elle doit partir et elle doit partir avant le 26 octobre, sinon je peux demander un recours de la force publique pour l'expulser.
Ouais.
Ça fait 2 ans qu'elle sait qu'elle doit partir. Maintenant, elle veut rester dans le petit village où elle est, où il y a rien en fait. Elle pourra pas trouver un logement ici. Et ça, j'ai beau lui expliquer parce que je la vois tous les jours, non, ça. Elle est d'accord pour partir, mais tant qu'elle a rien, elle partira pas.
Et vous faites quoi, Olivier ?
À quel niveau je fais quoi ?
C'est-à-dire que est-ce qu'elle vous paye encore un loyer ?
Alors, elle devait partir le 31 décembre 2021.
Ouais.
Elle m'a payé 2 mois, puis elle a arrêté de payer, puisque je lui disais qu'il fallait trouver un appartement. J'ai essayé de lui trouver des solutions. Je lui ai proposé, moi, de me porter garant pour un nouvel appartement où elle irait.
D'accord.
Elle a pas voulu.
Ah oui.
Ça, elle n'a pas voulu, donc on fait un trait dessus, elle reste dans l'appartement. Il y a eu donc la décision de justice qui a été rendue au mois de le 5 août, où là, l'huissier lui a amené le papier comme quoi elle me devait les loyers, puisqu'elle me devait 6 mois de loyer.
Et quand même.
Elle a proposé un étalement, hein, donc on va pas dire non, mais à la limite, le loyer, ça m'est égal. Moi, je veux qu'elle s'en aille. C'est une maison que j'ai achetée pour y mettre ma femme et mes enfants dedans.
Voilà,
ça m'est égal qu'elle me paye le loyer. Ouais.
Ouais, vous voulez juste récupérer votre bien, en fait.
Voilà. Et ceci dit, pour en revenir au débat, je suis pas contre, je suis pas pour la suppression de la trêve hivernale, mais je voudrais que quand il y a une décision de justice, une expulsion qui soit jugée, ce serait bien, à côté de expulsion, de mettre 3-4 figures. Le premier cas, c'est malveillant, c'est des gens qui sont rentrés par effraction, et là, il n'y a pas de trêve hivernale, on oublie la trêve hivernale, on fait partir les gens. Il y a les familles qui peuvent plus payer, Le propriétaire ne veut pas spécialement récupérer son bien, il y a les familles qui veulent plus payer, qui peuvent plus payer. Ben là, l'État qui sort facilement le chéquier, ben, s'ils veulent filer un coup de main et au propriétaire et à la famille en payant le loyer, une partie du loyer en attendant que la situation se règle.
C'est pas mal ça.
Pas mal.
Ça c'est bien, ouais.
Et la troisième, cas de figure, c'est comme moi, la dame elle veut pas partir. J'ai fait le nécessaire de mon côté, mais 2 ans, c'est trop long. Raccourcissez les délais. Parce que déjà,
c'est dur pour tout le monde.
Déjà
en fait.
C'est long. Et si en plus, c'est coupé tous les 6 mois, on est obligé de tout mettre en stand-by pendant 6 mois, on s'en sort plus. Moi, j'ai la maison à refaire. Au mois de novembre de l'année prochaine, je dois y habiter parce que je vais commencer à payer mon crédit. Je pourrais pas payer un crédit et un loyer si elle est toujours là, que j'ai pas fini les travaux, ou si elle est partie après la trêve hivernale et que j'ai pas fini mes travaux. Et c'est moi qui vais être dans la merde.
Bah merci beaucoup Olivier de ce témoignage.
Juste pour rebondir,
merci Olivier. Oui.
La trêve hivernale ne s'applique pas pour les squatteurs occupant un logement de manière illégale. Elle ne concerne pas non plus l'expulsion du domicile conjugal ordonnée par le juge en cas de violence ou procédure de divorce. Donc là voilà, quand il parlait des squatteurs, ça ne s'applique pas pour les squatteurs.
Alors là, c'est pas un squatteur qu'il a,
non,
Olivier, tout comme
c'est
le couple de retraités, c'est des anciens
locataires.
Voilà. Qu'on appelle squatteur parce qu'en fait.
Voilà, il faut.
Oui, mais parce qu'on
dans le monde
squatteur,
de l'appartement.
Ils payer un loyer. Alors, quand on occupe un logement sans le payer, on est
squatteur. Mais après, ils ne sont pas arrivés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé les serrures, ils ne sont pas arrivés illégalement. À la base, ils étaient illégalement dans cet appartement.
C'est pas un ancien locataire.
C'est pour ça que le prisme, il faut qu'il change, il faut que ça soit moins dans la protection absolue du locataire et qu'on
tombe. C'est une nouvelle méthode des squatteurs, justement, ça, d'arriver, de signer, de rester un mois après. De plus payer. Ça arrive souvent.
Alors, on est avec Jean-Baptiste Hérault, c'est notre invité sur ce débat. Il est porte-parole de l'association Droit au Logement. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. On parle d'un cas difficile, ce couple de retraités qui est à la porte de chez lui depuis 2 ans, qui vit dans une caravane parce que les locataires ne veulent pas payer leur loyer. Quel est votre jugement sur cette situation? On sait que, évidemment, votre association, elle milite pour que tout le monde ait un logement, et ça, c'est bien compréhensible. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi pour ces propriétaires, quoi?
Ah, écoutez, la situation ne justifie pas de remettre en cause la trêve hivernale. Je vous donne mon point de vue. C'est une conquête de l'abbé Pierre et les mouvements de locataires, défense des mal logés, des sans logis. Donc, il ne faut pas revenir là-dessus. C'est une législation qui s'applique aussi. En Suisse, en Belgique et dans quelques autres pays dans le monde. Donc, il faut protéger. Vous savez, mettre des gens dehors en plein hiver, voilà, c'est insupportable. Maintenant, l'autre question qui se pose, c'est que, effectivement, on a une crise du logement. Et on a une crise du logement qui trouve ses... Où est-ce qu'elle trouve ses sources, cette crise du logement? D'une part, un des éléments forts, c'est la cherté du logement. Et la cherté du foncier. Donc tout ça, ça fait que les prix ont monté, les loyers aussi ont considérablement augmenté ces derniers temps. Donc on va avoir de plus en plus d'impayés de loyers, de situations rocambolesques comme celles que rencontre ce couple. Donc voilà, maintenant, là j'entendais le témoignage du monsieur de Nice. C'est vrai qu'il a... Alors, il faut quand même rappeler qu'il l'a acheté occupé, ce bien. Donc il l'a acheté moins cher. Il y a une moins-value de l'ordre de 20 à 30%.
Mais c'est un accord entre le propriétaire et... Enfin, c'est un accord tacite. Après, on respecte ou pas cet accord, vous voyez ce que je veux dire? Signé au départ, avec la dame qui devait partir.
Non, il a acheté le bien avec un locataire, une locataire à l'intérieur. La locataire, elle n'est pas intervenue dans la transaction. Donc le montant de la transaction a été fixé. Enfin, moi, si j'entends bien,
le monde.
Bon, donc normalement, vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà, il l'achète moins cher, son bien. Bon, voilà, maintenant, il a besoin d'y habiter avec sa famille, ce que je comprends très très bien. Donc derrière, effectivement, la solution, elle est où? Elle est solution de relogement. Donc,
exactement.
Dans un logement social, puisque cette dame a sans doute des petits revenus. Donc il faut l'aider, il faut l'accompagner.
Et ça, c'est à l'État de le faire, pas au propriétaire.
Ah oui, sans doute, non, pas au propriétaire. Je dis pas que c'est au propriétaire de le faire, mais c'est l'État qui va avoir, à un moment donné, qui va être saisi d'une demande de concours de la force publique. Et je peux vous assurer que, vous avez un petit peu, faut pas l'oublier, c'est que de vivre avec une procédure d'expulsion sur la tête, c'est une angoisse terrible.
Bien sûr, mais c'est pour vraiment, ça que je dis que c'était difficile pour tout le monde.
C'est vraiment parce que, mettons les choses l'une en face de l'autre, les situations l'une en face de l'autre. D'un côté, on n'a pas les moyens de se reloger convenablement. On risque de se retrouver à la rue. Et la rue, c'est la rue.
Bien sûr.
La rue, c'est la mort.
Et c'est justement ce que disait l'abbé Pierre. C'est-à-dire que quand on vit dans la rue, on a 15 ans d'espérance de vie. Vous voyez ? Donc quand on est jeune, nous, on envoie des personnes qui viennent nous voir et qui étaient locataires, qui ont été expulsées, et qui sont à la rue. Alors elles sont hébergées à droite, à gauche, etc. Et régulièrement, elles se retrouvent dehors. Donc c'est, voilà, c'est ça. Au fond, la question, elle est aussi un peu dure. C'est-à-dire que on a aujourd'hui, globalement, une société qui encourage la recherche de profit maximum sur ce besoin fondamental qu'est le besoin de se loger. Et c'est un besoin fondamental. Donc si oui, voilà, après, il y a des logiques personnelles, individuelles.
Oui, mais vous avez raison, Jean-Baptiste Hérault. Et ce que vous dites, évidemment, c'est terrible. Voilà, une famille qui se retrouve à la rue, c'est terrible. Mais quelque part, est-ce que, je veux dire, ce constat qui est terrible, est-ce que c'est, par exemple, parce que là, on s'appuie au départ sur ce couple de retraités qui vit dans une caravane depuis 2 ans et demi parce qu'il y a une famille qui ne veut pas quitter son logement. Et je suis désolée, mais ça aussi, quand vous avez une maison, vous êtes tué pendant... Ils sont retraités, c'est-à-dire qu'ils ont pendant 40 ans chacun pour se payer une maison et aujourd'hui ils peuvent pas rentrer dans leur maison. Et je suis désolée, bien sûr que c'est, enfin, pour eux aussi, je veux dire, à un moment on peut pas regarder qu'une seule partie de la situation. Pour eux aussi c'est dur. Évidemment ils vont pas se retrouver à la rue, ils sont dans une caravane.
Ouais, mais c'est quoi l'espérance de vie dans une caravane?
Non, mais c'est pas le problème.
Non, mais parce que
c'est pas ça, mais à un moment
quand on est retraité, si vit dans une caravane, je suis pas sûr que ce soit le confort maximum.
Il faut surtout pas, contrairement à ce qu'a pu croire Fred, il faut surtout pas caricaturer et opposer propriétaire locataire. Non, mais dans les deux cas, encore plus pour ce témoignage et ce malheureux fait, les pauvres propriétaires d'une caravane, bien évidemment qu'il faut les plaindre et bien évidemment qu'ils sont victimes tout autant de la grande précarité de cette famille qui loge ce logement, qui squatte ce logement donc sans payer le loyer. Donc bien évidemment que c'est un sujet extrêmement complexe, il faut sortir des caricatures, sortir des préjugés et surtout sortir des oppositions.
C'est la réalité qui est caricaturale. Parce que quand t'es retraité, t'as une maison, vivre dans une caravane, caricatural.
Je suis en train de prendre leur défense, Fred. Donc effectivement, je suis en train de prendre leur défense, Fred. Donc ce que je veux te dire, c'est que tout autant du côté des locataires que des propriétaires, c'est un sujet ô combien complexe et ô combien triste et malheureux. Dans tous les cas, ça crée du désordre et de la pauvreté, de la tristesse sociale. Donc oui, l'État doit prendre en main ce
Il y a pas assez de solutions d'accueil. Chose.
Et oui, c'est vrai, mais un autre élément, vous disiez, ah là là, affreux communiste, réquisitionner logement. J'ai pas allé là. J'ai simplement allé sur une simple application de la loi. Je vous rappelle que la loi en France, elle impose à ce que les grandes villes de plus de 20 000 habitants imposent et 30% de logements sociaux. Il y a des centaines de villes en France qui ne respectent pas la loi.
Et qui préfèrent payer des amendes.
On peut aussi tout simplement, pour sortir de cette crise du logement qui touche Fred, tout autant les locataires que les propriétaires, je ne veux pas faire de caricature et je ne fais pas d'opposition. Il faut, pour sortir de la crise, faire respecter la loi, imposer une relance des constructions, des investissements pour le logement et pour le logement social.
Mais en ce moment, c'est compliqué de relancer la construction parce que les matières premières ont énormément augmenté. Mais sauf que, par exemple, Fred, on pourrait déjà, réquisitionner des bureaux vides, des magasins vides, des entrepôts vides, avant de réquisitionner des logements de particuliers. Il y a ça aussi qui doit être possible. Oui. Je veux dire, vous avez l'eau courante, l'eau chauffage, des douches dans des entreprises, et c'est quand même plus simple. D'aller réquisitionner un immeuble de bureau que et d'aller réquisitionner un appartement. Avec justement des situations qui sont inextricables comme celle de ce couple de retraités. C'est quand même pas pareil, de prendre un bureau que de prendre un logement. Je voudrais juste qu'on prenne Nicolas qui nous appelle de Vichy dans l'Allier. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour.
Nicolas, bonjour. Est-ce que pour vous, il faut supprimer la trêve hivernale pour, allez, on va dire pour les locataires indélicats, parce que pour les squatteurs, il n'y a pas de trêve hivernale.
Alors là, justement, je pense qu'on est sur une question qui est peut-être mal posée, à savoir que la trêve hivernale, donc elle est, pour moi, à part du sujet qui concerne les retraités dont on parle aujourd'hui. Ils avaient une locataire qui est en place et qui a arrêté de payer. À partir de quel moment on la considère encore comme une locataire et pas comme une squatteuse?
Elle a arrêté de payer en décembre et elle a arrêté de payer il y a 2 ans dans l'affaire qui nous concerne.
Ça fait 2 ans et demi que cette personne a arrêté de payer ou que les retraités souhaitent récupérer leurs biens. Je pense que c'est plus sur le travail de la justice et de l'appel à la force publique pour mettre cette personne dehors Je pense sur la partie en fait du fait d'expulser les gens pendant la trêve hivernale. Là, on doit faire du cas par cas, à savoir
que
les il y a des voilà, des familles qui sont en grande précarité, celles-là, voilà, peut-être se concentrer sur elles et essayer de les reloger. L'État a la facilité de mettre la main au portefeuille pour tout un tas de choses et faire énormément d'assistanat aujourd'hui. Donc voilà pourquoi.
C'est aider les familles. En revanche, si c'est quatre jeunes, on n'aide pas de la même manière. C'est ça que vous voulez dire. On fait au cas par cas. C'est ce que disait Thierry Moreau également très rapide. Frère.
Non, il y a une influence néfaste pour l'ensemble des locataires de ce pays. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les propriétaires ne sont pas protégés, ils ont tellement peur de mettre des gens
et qu'ils ne louent plus.
Et qu'ils, c'est-à-dire qu'ils ne louent plus. Ou alors quand ils louent, ils demandent tellement de garanties que ça empêche le logement de beaucoup de gens. Donc attention, cette situation, elle a des conséquences néfastes sur tout le monde.
Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'Airbnb, parce que les propriétaires se sentent beaucoup plus protégés par un Airbnb que par une location longue durée. Et c'est un drame aussi dans la situation du logement.
Ça fait monter les prix.
C'est vraiment exactement. C'est vraiment un problème extrêmement compliqué. On vous a posé la question donc sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Est-ce qu'on doit supprimer la trêve hivernale pour les locataires indélicats qui ne payent pas leur loyer?
Et vous êtes 83% à penser que oui, il faut supprimer cette trêve hivernale, ça fait quand même beaucoup.
Mais là, on est quand même sur une très très large majorité. Je vois Pierre Rondeau qui fait la tête, il n'en revient pas.
Écoutez le débat, je pense.
Pierre Rondeau,
écoutez ta bonne parole. Oui,
dans un instant, RMC s'engage pour vous avec Élise Dangeon, une situation hallucinante. Élise qui va tenter d'aider des parents d'élèves dont les enfants n'ont plus de moyens de transport pour se rendre au collège. Donc ils ne peuvent plus aller à l'école, c'est quand même très embêtant. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi. Et dans cette dernière partie, eh bien RMC s'engage pour vous avec Élise Dangeon. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et alors aujourd'hui, Élise, on parle pénurie de chauffeurs de bus. Vous avez été alertée par une maman dont le fils n'a plus du tout de moyens de transport pour aller et revenir de son collège.
Oui, une maman qui travaille beaucoup, Anne enchaîne deux boulots et depuis la rentrée, elle fait aussi office de chauffeur pour son fils aîné, Louis, et ses copains en classe de 6e au collège de Villeneuve-sur-Bello en Seine-et-Marne. L'établissement se trouve en pleine campagne, à 15 km de chez elle. Il est normalement desservi par les lignes 34 et 34S3, sauf que depuis la rentrée, eh bien les bus ne passent plus ou alors au compte-gouttes. S'ils ont de la chance, les collégiens ont droit à un bus le matin et un le soir, mais à des horaires qui ne correspondent pas toujours à leurs emplois du temps. Oui. Et les familles sont prévenues à chaque fois à la dernière minute.
On comprend pas pourquoi ce sont nos enfants qui sont lésés. On préférerait qu'ils fassent pas passer les bus pour les adultes qui vont au travail, par exemple, qui peuvent avoir une solution. Et privilégier plus nos enfants qui, eux, arrivent en retard, loupent des heures de cours, sont obligés de partir en avance, loupent des heures le soir pour pouvoir être amenés chez eux.
Alors, situation évidemment très compliquée pour les parents et pour les enfants, mais que vous disent les élus, Élise ?
Alors franchement, ils se démènent, ils ont fait remonter l'information à la sous-préfecture, au département, à la région et bien sûr à Transdev qui gère ces deux lignes. Le transporteur explique que la situation est liée à la pénurie de chauffeurs qui frappe la France et plus fortement encore l'Île-de-France. Argument insuffisant pour Edith Théodose Poma, la maire de Saint-Cyr-sur-Morin, une commune de 2000 habitants qui se trouve sur les deux lignes impactées.
Là où c'est grave, c'est que ça a mis en insécurité énormément de gamins. On a des gamins sur les bords des routes qui font du stop, non mais c'est inadmissible, qui errent dans les villages parce qu'ils n'ont pas eu de transport, ou après des parents qui ont pris dans leur véhicule des enfants sans avoir l'assurance pour transporter les enfants. Enfin voilà, plein de problèmes quand même qui sont très préoccupants et pour lesquels on voudrait une résolution extrêmement rapide.
Voilà, alors vendredi dernier, après leur mobilisation, les élus des communes concernées ont été reçus par Transdev.
Et il s'est passé quoi que leur a répondu l'opérateur ?
Alors, plusieurs choses. Il s'est excusé déjà, c'est pas mal, c'est un bon point.
Okay.
Nous, on les a contactés aussi, donc le transporteur reconnaît pleinement les perturbations. Pour l'heure, il dit que sa marge de manœuvre est très réduite, car la pénurie de chauffeurs touche vraiment tous les opérateurs. Impossible donc de sous-traiter, par exemple. Transdev, qui espère un retour à la normale en début d'année prochaine, s'engage toutefois à rétablir une offre allégée mais stable après les vacances de la Toussaint. Aujourd'hui, tous les transporteurs de la région étaient reçus par Valérie Pécresse, la présidente d'Île-de-France Mobilité, qui entendait leur mettre un petit coup de pression, nous a-t-on dit en interne. Clément Beaune, quant à lui, le ministre délégué chargé des Transports, n'a toujours pas répondu à nos sollicitations. Pour rappel, il manquait Ouais, il manquait à la fin de l'été plus de 4000 conducteurs de bus sur tout le territoire.
Donc, évidemment, on va continuer à suivre ce dossier parce que c'est pas normal que des élèves ne puissent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport. Ça paraît absolument aberrant. Merci beaucoup, Élise Dangean. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Bah tiens, on parlera de Valérie Pécresse, justement. Grosse enquête sur la candidature de Valérie Pécresse aux dernières élections présidentielles. On en parle avec Thibaut Texer et puis on connaît déjà l'affiche de la finale de la Coupe du Monde 2022. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi avec Thibaut Texer, Thierry Moreau, Fred Hermel et Pierre Rondeau. Et dans cette dernière partie, on vous donne les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Voici les immanquables.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et on commence, Thibaut, ça vient de tomber avec l'enquête du jour.
Et oui, dans le viseur, les conditions d'organisation de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Selon les informations de nos confrères de BFM TV, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris pour financement illégal de campagne électorale, financement illégal de parti, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêts. C'est un courrier public d'une conseillère régionale d'Île-de-France, Babette de Rosière, qualifiant une campagne hors sol au printemps dernier qui aurait mis le feu aux poudres. Dans la foulée, Julien Baliou aurait fait un signalement au parquet estimant que des moyens de la région Île-de-France auraient été mis au service de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse.
Pierre Rondeau, ça fait des ordres, là, quand même.
Bah, surtout qu'on commence à être malheureusement habitué de la part des Républicains, anciennement UMP, anciennement RPR. On a le sentiment que c'est une habitude chez eux d'être en permanence mêlé à des affaires de, non pas de corruption, mais de financement illégal de campagne. Alors là, ça vient de tomber, donc j'ai pas encore tous les tenants, les aboutissants, donc je ne viendrai pas à l'esprit ou à l'idée de faire un commentaire objectif, mais tout ce que je constate, c'est que c'est encore du côté des
Républicains.
Il y a
quand même pas mal de d'accusation, là, quand même.
Oui, bien sûr, et que ça vienne de Julien Baillou, en plus, c'est assez cocasse. Mais voilà, c'est encore du côté républicain. Il y avait eu des affaires avec Nicolas Sarkozy, il y avait eu des affaires avec Jacques Chirac, il y avait eu des affaires avec Alain Juppé. Au bout d'un moment, on a envie de se dire, les gars, je sais pas, remettez-vous en question. Après, j'ai pas tous les tenants et aboutissants. Donc,
après, t'as des problèmes de financement de la vie publique. On sait que le RN, la France Insoumise sont aussi mis en cause dans des financements d'assistants parlementaires au niveau européen. Oui. On a un problème de financement de la vie politique. Aujourd'hui, faire une campagne présidentielle coûte très cher. On le sait bien. Et donc, il y a une tentation, malgré les tentatives de Michel Rocard d'assainir un petit peu ce secteur en créant notamment la haute autorité de la transparence de la vie publique. On a une difficulté aujourd'hui à financer les campagnes électorales parce que ça coûte en fait beaucoup plus cher que ce qu'on pense.
C'est plafonné.
C'est plafonné, mais justement, il y a une tentation de déplafonner en faisant du financement illégal pour être. Enfin, on se souvient des meetings très coûteux de Nicolas Sarkozy.
Dépensé et en plus, elle n'a pas atteint les 5%, donc non, elle a quand même beaucoup.
En plus, elle
n'a
pas été remboursée, donc c'est très compliqué. Donc, il faut attendre de voir ce que donnera l'enquête. Mais on a un problème aujourd'hui de financement de la vie publique. Alors, c'est un peu contre-productif et contre-instinctif de ce que je dis parce que beaucoup de nos auditeurs pensent que déjà notre vie politique nous coûte très cher. En fait, elle nous coûte très peu cher si on rapporte à chaque électeur.
Non, en plus, on pensait qu'avec les nouvelles technologies, en fait, les campagnes, elles coûtaient moins cher. Et c'est pas le cas.
Un hologramme, ça coûte cher, vous savez.
Mais et puis surtout, on fait appel à des boîtes qui ciblent, etc. Ça coûte très cher.
Et les cabinets de conseil, les fameux cabinets de conseil.
On fait un Twitch, pas besoin de réunir, de faire autant de
mails, etc.
Ça coûte très cher aussi.
On passe par des bureaux d'études, des experts.
Vu que ce sont les retraités qui votent, si vous voulez, Twitch n'est pas encore.
Justement, il faut séduire les jeunes. C'est pour ça que des partis comme la France Insoumise investissent beaucoup ce type de médias.
Aujourd'hui, il vaut mieux séduire les vieux. Vous voyez, ça rapporte plus. Thibaut Texer, nous allons passer tout de suite à l'erreur du jour.
Mais oui, Google a-t-il prédit l'avenir en donnant hier le nom des prochains finalistes de la Coupe du Monde au Qatar, en cherchant sur le moteur de recherche la programmation des prochains matchs au stade Lusail à Doha, lieu de la finale de la prochaine Coupe du Monde. On pouvait y voir un certain France-Brésil. Eh oui, je vous le donne. France-Brésil, le 18 décembre prochain, jour de cette fameuse finale. Un remake aussitôt rectifié, puisqu'il semble à ce jour un peu probable au vu des récentes prestations des Bleus.
Vous y croyez ou pas une petite finale France-Brésil? Je crois au Brésil, vainqueur de la Coupe du Monde, en tout cas.
Oui, ça oui. Le Portugal, ils sont pas mal aussi. Ouais. Mais tout est possible. Franchement, ça fait tellement longtemps que je commente et que je parle et que j'écris sur le foot que j'ai appris à ne plus faire de pronostics.
Ouais, je suis d'accord avec
parce
vous.
Que là, oui, ça là-dessus, ça me paraît très dangereux. Mais c'est vrai que.
Mais moi, j'aime bien l'idée de la France qui renaît de ses cendres, oui. France moribonde et qui se hisse.
Mais ça arrive. Avec toutes les catastrophes qui en ce moment, les blessures, etc., le mauvais jeu, les défaites, en général, il peut y avoir un sursis. Après, ce genre d'histoire, c'est vrai que c'est rigolo, mais combien de fois on a eu des erreurs, des choses qui ont été annoncées avant, pour, à cause d'erreurs informatiques, les algorithmes, tout ça, ça fait des bêtises. Donc là, ça fait du bruit parce que c'est une finale de Coupe du Monde.
Il y a même des poulpes qui ont annoncé des trucs vrais.
Oui, ouais, c'est
vrai. Mais ce qui est intéressant, et je serais curieux de savoir, j'ai pas eu l'information, c'était une erreur humaine et quelqu'un aurait écrit France-Brésil, ou alors c'est justement l'algorithme de Google qui a mis ça automatiquement. Et il faut rappeler que l'algorithme de Google, en tout cas, son intelligence artificielle, a été construit, en tout cas, a été utilisé pour le mondial 2014 et le mondial 2018 pour prédire les résultats. Avec une marge d'erreur assez élevée, mais en tout cas, qui n'a eu de cesse de s'améliorer pour tenter de façon par l'informatique et par les probabilités assez complexes, tenter de prédire les résultats. Alors, je serais curieux de savoir si c'est cet outil algorithmique qui a écrit France-Brésil, donc il y a une part de finalement de prédiction certaine ou l'erreur humaine, un stagiaire.
Enfin, est-ce qu'on a l'espoir de chaque match pour que je mette un euro sur chaque
match? Il y a un courtier allemand qui avait donné la victoire de la France, notamment en 2018, qui a donné en finale Argentine-Angleterre.
Moi, j'y crois pas
en
du tout.
Tout état de cause.
Mais
jamais de la vie.
Et l'Argentine gagnante.
S'il donne l'Italie, faut pas le suivre non plus, hein,
oui. Ah oui, non.
En tout état de cause.
L'Italie n'est pas.
Oui, c'est ça.
Oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas qualifié à la Coupe du Monde.
En tout état de cause, si vraiment il y a une finale France-Brésil le 18 décembre, les complotistes.
Oh là 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 là.
Oui. Ça va être.
Mais Thierry, ils n'ont pas besoin de ça, déjà.
Oui, mais après, c'est pas l'affiche la plus improbable. Vous voyez ce que je veux dire?
Non,
alors que. C'est comme quand au tennis,
ça voudra dire que. Ça voudra dire que tout est truqué.
Oui, mais. Il y a 5 ans, si au tennis vous misiez sur une affiche Federer-Nadal, a priori.
Complotiste
vous aviez quelque chose que ce soit
la France,
bon.
C'est pas Federer.
Enfin, vous disiez vous-même, non, la France n'est quand même pas super bien partie.
Oui, mais enfin, Google ne sait peut-être pas qu'il y a des blessés en équipe de France. Donc, s'ils jugent sur le palmarès et sur le fait que la France est quand même championne du monde en titre, bon, bah, c'est assez plausible d'avoir un France-Brésil en finale.
Et si juste, par exemple, sur le prix des joueurs, parce qu'on a des Mbappé, etc., Neymar, Mbappé, etc., les algorithmes, ça calcule tellement de trucs bizarres que c'est peut-être à cause de ça que France-Brésil est apparu.
Nous allons passer à l'envie du jour. J'adore.
Celle des jeunes qui aspirent de plus en plus à de nouvelles organisations de travail. Selon une enquête Opinionway pour Le Parisien, on apprend que 53% d'entre eux, et ça va vous plaire Estelle, plébiscitent la semaine de 4 jours. Oui, une proposition qui va dans le sens du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui ce matin encore sur RMC et BFM TV rappelait que le travail, bien qu'essentiel, devait être réduit à 32 heures. Parmi les autres aspirations de la jeunesse, un CDI à mi-temps, le télétravail à 100% ou encore la possibilité de cumuler une activité principale à une autre activité secondaire.
Ouais, on sent qu'on n'est pas dans la grosse force de travail.
J'aurais
quand même,
juste rappeler à ces jeunes, et je respecte et j'entends parfaitement leurs demandes et leurs appels, mais juste qu'un CDI à mi-temps ou que 100% télétravail, vous ne tenez pas 2 ans. Hein. Là-dessus, bah, déjà CDI à mi-temps, vous êtes payé à mi-temps. Donc, faut aussi vivre.
Mais si tu aspires à vivre, à ne pas vivre dans ton entreprise.
Mais c'est pas assimilable avec justement une deuxième activité secondaire.
S'il y a une activité rémunérée derrière, évidemment, oui, c'est un CDI à mi-temps dans un domaine d'activité particulier. Oui. Et ensuite, je fais autre chose tout en travaillant. Donc, au final, je travaille à temps plein.
Si tu crées des bijoux,
bien évidemment, après, l'aspect 100% de télétravail, vous l'avez vécu, enfin, les jeunes l'ont vécu en tant qu'étudiant. Moi, je l'ai vécu en tant que prof. On l'a tous vécu à droite, à gauche, faisant nos différents métiers. Le télétravail, sur 6 mois, 1 an, je le souhaite à personne. Vraiment. Le télétravail, c'est très bien de temps en temps. Ça aide, ça facilite les choses, ça permet justement les confinements d'éviter les pandémies et la propagation des maladies. Mais 100% de télétravail, vous explosez littéralement au bout de 6 mois.
Pourquoi, Pierre ? Parce que nous, on a connu autre chose. Mais là, les jeunes qui sont interrogés, ils n'ont pas connu autre chose.
Le nombre de dépressions chez les jeunes qui a augmenté est assez considérable.
Oui, sauf que, en fait, pour eux, c'est l'entreprise, elle va ressembler. Enfin, l'entreprise que on a connue, c'est pas celle que vont connaître les jeunes.
Mais voilà, le mental des jeunes est en chute libre. Il faut aussi le rappeler. Le mental des jeunes est en chute libre. Les cas de dépression chez les 18-25 ans a explosé depuis le Covid.
C'est très drôle, Estelle. C'est marrant parce que quand moi je le dis, je suis caricatural, mais quand c'est une enquête très sérieuse et les jeunes le disent, qu'ils veulent plus travailler, là c'est super.
Bah,
qu'ils veulent
même plus travailler.
La copine
de mon voisin m'a dit que. Voilà.
Non, mais ce sont des trucs. Alors simplement, je voudrais simplement rappeler à ces jeunes que la protection sociale à la française qui est merveilleuse, il faut la financer par le travail. Sinon, elle disparaît.
Et s'ils sont plus à travailler? Parce que c'est ça aujourd'hui, il y a 4 millions de chômeurs en France. Si tous ces jeunes ils décident d'être à mi-temps, eh ben, il n'y aura plus de chômage. Vous voyez ce que vous pouvez voir les choses de manière positive, Fred. Vous le faites assez peu souvent, malheureusement.
Oui, c'est vrai. Je suis un peu négatif parce que simplement je fais des petits calculs.
Excusez-moi.
Des petits calculs et ça rentre pas.
Tu donnes des verges pour te faire battre parce que cette enquête ne dit pas que les jeunes ne veulent plus travailler.
Exactement.
Ils veulent travailler
moins.
Différemment.
Oui.
Il y a d'abord deux choses.
Parce que ça veut rien dire.
Deux choses. Est-ce que je peux finir une phrase? Deux choses. Ça concerne forcément qu'une partie des professions. Parce que pour ramasser les poubelles ou pour être à l'hôpital, tu peux pas faire 4 jours au lieu de 5.
C'est pas possible.
Première chose. Deuxième chose, il y a des métiers où tu peux faire ton travail en 4 jours au lieu de 5. Donc si ça peut se faire pour le même salaire et que la force de travail et la productivité est là, pourquoi pas? Moi, ça me pose aucun problème. Et dernière chose, je l'ai souvent répété ici, les jeunes aujourd'hui ne placent plus la réussite personnel dans la réalisation au travail. Ça, c'est quelque chose que nous, qui avons passé un certain âge et qui avons beaucoup investi dans notre vie professionnelle, ce n'est plus la même chose. Ce ne sont pas
feignants.
Ce ne sont pas des feignants, ce sont simplement des gens qui ne placent plus la réalisation personnelle dans l'accomplissement au travail.
C'est-à-dire la fin de la protection sociale.
Et après, tu peux travailler plus aussi. Mais tu veux une journée, tu peux travailler 4 jours et en travaillant plus.
Bien sûr, c'est pas la même chose. 4 jours.
Ça rejoint une proposition de Philippe Martinez.
Des gens qui ramassaient les poubelles, à Paris, ils sont à 32 heures.
Après, il y a le problème, effectivement, des.
Non, mais par exemple.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des métiers en première ligne qui ne peuvent pas travailler sur 4 jours au lieu de 5, très clairement.
La grève du jour.
À l'appel de la CGT, justement, on en parlait, les salariés de Total Energy qui réclament une hausse des salaires ont démarré ce mardi une grève d'au moins 3 jours. Un mouvement qui menace de perturber l'approvisionnement des stations-service en carburant parmi les principaux sites concernés. La bioraffinerie de La Mède dans les Bouches-du-Rhône ainsi que les dépôts de carburant de Grand Puy en Seine-et-Marne et de Flandre dans le Nord. Pour rappel, le géant gazier et pétrolier a réalisé d'énormes profits au deuxième trimestre 2022.
Mais il y aura. Il faut aller faire le plein, là.
Ah bah.
Non, mais c'est quand même.
Non.
Je trouve ça assez étonnant. Ouais, ils menacent,
bloqué.
Je trouve ça assez étonnant de la part des salariés de Total Energy qui demandent une valorisation salariale quand on sait que ce groupe a réalisé 14 milliards de bénéfices en 2021.
Oui, il doit y avoir quand même un petit intéressement et une participation.
Voilà, ou alors peut-être que la grève n'est qu'une menace et qu'elle ne sera pas mise à exécution et qu'au bout de 2 heures, ça va être obtenu, leur demande. Mais se demander une valorisation qui est normale, hein, tout le monde souffre de l'inflation.
Une revalorisation à hauteur de 10% pour l'année.
C'est marrant, mais je sens que cette grève, elle, là, pour le coup, elle ne va pas être populaire. Vous voyez,
Si elle dure, maintenant, je me dis naïvement, très naïvement, si Total est bloqué par cette grève qui vient de réaliser 14 milliards d'euros de bénéfices, Total pourrait donner un tout petit peu. Oui,
mais les employés n'ont pas des intéressements, il y a la loi, les intéressements. C'est une grosse entreprise.
Ils doivent avoir, mais après, ils ont du salaire et pas de la prime.
L'industrie pétrolière n'est pas l'industrie qui paye le moins. Hein. Quand on regarde dans l'échelle des industries, dans l'industrie pétrolière, c'est plutôt des salaires qui sont un peu au-dessus de la moyenne.
J'insiste, la participation et l'intéressement, à partir du moment où c'est dans une entreprise, c'est obligatoire, les salariés vont aussi naturellement bénéficier en fin d'année, enfin une fois dans l'année, des bénéfices extraordinaires réalisés par
l'entreprise. Oui, mais sur la prime, là aussi, une demande de valorisation salariale.
Là, ils demandent 10% de revalorisation salariale. Voilà, 10%, donc c'est pas, c'est pour, enfin, vous savez, vous demandez 10 pour avoir 5. Ça, c'est le principe de la négo.
On va terminer. Mobilisation, il y aurait, une baisse de 20 à 30% de la production dans les raffineries.
D'accord. On va terminer avec la reconversion du jour, très rapide.
Celle de Didier Lallement, qui a été nommé hier en Conseil des ministres à la tête du secrétariat de la mer sur proposition de la première ministre Elisabeth Borne. L'ancien préfet de police de Paris prendra ses fonctions la semaine prochaine. Il aura pour but de contrôler et de coordonner la politique maritime du gouvernement.
Oui, Fred, il y a des gens qui restent peu au chômage. C'est le cas de Didier Lallement.
Lui, théoriquement, il doit être à la retraite.
Après,
il a dépassé l'âge légal.
Non, mais c'est un haut fonctionnaire, non?
Oui, qui a dépassé l'âge légal.
Il peut être à la retraite. Il peut faire valoir ses droits à la retraite.
Bah, il prend à la mer, vous voyez.
Comme
c'est
ça,
quand
il
même
pourra
sympa.
Taper sur les poissons.
Moi, j'ai envie de dire.
Taisez-vous, Pierre Rondon.
Non, mais.
C'est génial.
Alors, je vais laisser Thierry terminer.
Non, je dis, il pourra taper sur les poissons.
C'est ce que j'allais dire. Moi, je me demandais si demain, est-ce que ça va sortir la lacrymo dans la mer.
C'était plus drôle, Thierry.
Bon, allez, on va accueillir tout de suite Vincent Moscato, le super Moscato.
Celui
show.
Qui ne pleure jamais.
C'est
pleure
dans un toi, la pleureuse.
Jamais.
La pleureuse.
Alors, c'est un grand sensible.
Non, mais
et toi?
Si, j'ai eu beaucoup d'émotions
en
te voyant ce matin. Je regardais à midi, je regardais.
Mais je sais que t'as parlé de moi dans ton émission il y a deux jours.
Je parlais de toi. Je parle souvent de toi.
Oui, bah voilà. Trop, je pense.
Ça va, ta vie.
Bon, allez.
Alors, ça va, ouais, vous êtes en forme.
Oui.
Je vous ai écouté là avec les 14 milliards de. Putain, si je faisais 14 milliards de bénéfices, c'est une gabegie là. Je ferais des Falcons, des avions privés, ça serait une boucherie. Un ultimatum sur un coach. T'as vu l'OL, Peter Bosch. On lui a dit si tu ne reprends pas 17 points en 6 matchs. On te vire. Est-ce que ça marche, ça? C'est pas possible. Déjà, ils gagnent rien. Ça, c'est une catastrophe.
C'est surtout que 17 points en 6 matchs, c'est pas possible, puisqu'on peut pas. Soit tu prends 18, soit tu prends 15, mais tu prends
Stuart Lancaster. C'est qui c'est? Rien à voir avec Burt Lancaster. Non. Stuart Lancaster sera le prochain entraîneur du Racing. Du Racing Club de France. Du Racing 92.
Voilà. Ah, super.
Tu ne comprends rien parce que tu es monoculture. Donc, je le sais. Neymar a-t-il marqué l'histoire de la Seleção?
Là,
non.
Non.
On va peut-être attendre qu'il prenne sa retraite.
Moins certain.
Oui.
Rien à voir avec Pelé, bien sûr.
Non. Bah non, mais enfin.
Moins Ronaldo.
Moins grand joueur.
Moins Ronaldo.
Ouais.
Ronaldo Nazario, le plus grand attaquant de tous les temps.
Voilà.
Là, vous étiez en manque de sujet, là, peut-être.
Non, non, mais on tiendra 3 heures. Hein.
Ah, bah, je sais, ça, je m'inquiète
parce
pas.
Parce qu'on a plein de petits sujets satellites qui viennent se greffer.
Ah, mais oui.
Et on les rajoute au fur et à mesure, comme
c'est
ça.
Bien.
On greffe des trucs comme ça qu'on invente au fur et à mesure. On parlera de boxe, on peut parler de cricket, on peut parler de.
Mais par exemple, pour ou contre la semaine.
De navigation, on peut parler.
Pour ou contre la semaine de 4 jours, par exemple.
On peut parler. Non, mais, oui, mais vas-y, continue 3 jours, 2 jours. C'est mon rôle, je vous ai écouté. C'est l'empire de la feignasserie. C'est bien. Les mecs, au début, ils font du télétravail.
Une pièce dans la machine.
Et puis ça régresse. Ça régresse automatiquement. Si tu me fais du télétravail à la maison, la télé, ça va être tout simple.
Mais vous faites l'émission de chez vous, quelquefois.
C'est ça le travail. Non, mais ils croient. C'est ça. Ils croient encore. Vas-y. À 55 ans, ils y croient encore, lui. Ils se prennent en charge et il faut les laisser faire. Mais non.
Alors que toi, t'es là 5 jours par semaine.
À l'usine.
Hein, toi, t'es là 5 jours par semaine et
oui,
ça, c'est fort.
Je suis un exemple.
Mais je sais, j'allais travail. Te le dire. Exactement. Exactement. Et on va voir ça d'ailleurs dans un instant.
Voilà,
sur RMC.
Voilà, on en est la France. Voilà, bravo, monsieur Moreau. Merci.
Super Moscato Show.
Merci. 40 ans après. Merci, monsieur Moreau. Allez-y. La grève des autres. Qui se gave dans les. Heureusement que t'as bien dit. Ils se gavent dans l'industrie pétrolière. Ils font grève.
Ouais. Okay. D'accord.
J'achète plus les
sables. Tu peux finir ? Allez. Au revoir, Vincent. Vincent Moscato, tout de suite sur RMC. Nous, on se retrouve demain midi 15h. Dans Estelle Midi, à demain.
RMC, 15h-18h, le Super Moscato Show.